Pastoureaux et pastourelles, bien le bonjour. Vous avez longuement voyagé, n'est-ce pas? Je vous attendais avec impatience. Vite, prenez place et mettez-vous à l'aise. Je suis votre hôte, Gabriel Côté. Diplômé en études médiévales et en archivistique, j'aime partager ma passion au passant. Je vous propose aujourd'hui de faire un saut dans le temps, de revoir le Moyen-Âge à travers une loupe moderne, une loupe plus féministe. Et surtout de faire justice à cette période si magnifique. Mettez-vous confortablement et bonne écoute, mes chers amis. Pastourelles et pastoureaux, bien le bonjour et bienvenue à l'épisode 29 de Ad Medievum Aeternum. C'est votre hôte Gabriel et ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui, mes chers amis. Aujourd'hui, pour un épisode passionnant, un épisode que j'ai adoré préparer, un peuple qui me fascine et en même temps un épisode qui m'a brisé le cœur parce que j'ai dû couper, mais omettre de parler de certains détails que je trouve absolument fascinants. Juste pour le bien de l'épisode, pour que ce dernier ne dure pas 4h30. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle de ces célèbres et fameux Vikings. Pourquoi ça a été difficile à faire comme épisode? Ben pour plusieurs raisons en fait. La première, c'est que c'est mon sujet d'expertise, sans dire que je suis un expert, là, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je me spécialise sur les Vikings. La raison, bon ben j'en ai déjà parlé dans l'épisode 1 et 2, mais c'est que dans le fond... étant très intéressé par la place de la femme au Moyen-Âge et surtout dans le rôle politique, militaire ou dans des rôles typiquement masculins, surtout au niveau de la guerre. Eh bien, les Vikings, c'était un vrai jardin d'Éden, hein, si je peux me permettre un drôle de jeu de mots. C'est une place où les femmes avaient beaucoup de droits. On l'a vu ensemble sur l'épisode sur la place de la femme dans le monde des Vikings. Et là, aujourd'hui, c'est ce fameux épisode où on plonge dans les Vikings en général. Donc, sachez-le, aujourd'hui, ça va être du survol. Ça va être ridiculement... ça va être un survol qui va être ridiculement exagéré, à mon avis, dans le sens où il y a tellement de choses à parler. Gardez-vous en tête, en fait, que pour les Vikings, après qu'on ait fini notre visite guidée du Moyen-Âge très rapidement, j'ai l'intention de faire la saison 2 sur les Vikings. Donc, on va avoir une saison complète avec... avec les Vikings, on va parler de leur technique de navigation, qu'on va parler de leur culture, qu'on va aborder chaque dieu de façon séparée, qu'on va étudier les sagas ensemble, qu'on va étudier les runes. Il y a beaucoup de choses à dire sur les Vikings et je dois me restreindre car sinon, eh bien, vous le voyez, je prévois faire une saison, donc on s'entend que je peux pas faire tout ça en un épisode. Donc, trêve de bavardage, update. Là, au moment où j'enregistre, je suis évidemment pas à Chicago et j'ose croire que je vais être capable de le publier lundi. Donc, ce qui veut dire juste avant que je parte. Sans quoi, bon, ben, si vous entendez ça, on est au mois d'août, je m'excuse. Finalement, je n'ai pas eu le temps étant donné que c'est quand même un épisode particulièrement chargé. Mais, je suis content de vous le présenter. Et là, je vais vous donner quelques updates encore une fois sur les réseaux sociaux. Là, je suis beaucoup sur Instagram, Facebook, TikTok. Donc, vous pouvez me suivre sur ces réseaux-là. J'ai pas encore mis le lien Instagram. Je vais tout les mettre sur mon site. D'ailleurs, je vais faire ça tout de suite après l'épisode. Je vais me rendre compte que je vous avais dit que je le ferais avec l'Ulfbert et que je l'ai pas fait. Je vais faire ça tout de suite après que j'ai fini d'enregistrer ça. Donc, c'est juste une petite update. Dans le fond, pourquoi? Ben, en fait, c'est parce que sur Instagram, pourquoi j'insiste, ou sur TikTok, c'est que je suis capable de vous montrer des photos, des images, hein, parce que là, évidemment, dans le podcast, vous m'écoutez, vous ne pouvez pas voir des images, mais justement, de mon périple au musée à Pointe-à-Calière, j'ai pris des photos de certains artefacts, de certains objets de l'époque viking, et je fais des petits articles souvent en discutant un peu, regardez ici, on peut voir une influence, par exemple, sur la pierre de Jelling. En fait, on voit Jésus qui est crucifié, mais ça rappelle étrangement quand Loki est attaché. Donc, il y a des influences, évidemment, qui sont pas facilement descriptibles sur un podcast, mais qu'une image, hein, une image, ça vaut mille mots. Donc, ça pour dire, même si l'entièreté du contenu est sur le podcast, allez voir les réseaux sociaux, surtout Instagram, parce que je peux publier des photos et ça me permet de vous rajouter de l'information supplémentaire. À part ça, j'avais un autre sujet dans lequel je voulais m'enligner. Et là, ça part bien, j'ai déjà oublié. Donc, on va y revenir dans le cours de l'épisode, si je m'en souviens. Mais, ah oui. Donc là, encore une fois, je réitère, les épisodes avec Pierre s'en viennent bientôt. On est encore en train de regarder pour la date, parce que le studio doit être prêt, mais ça va se faire soit dans le début du mois d'août, soit vers la fin. Juste vous donner une petite update, comme on dit en anglais. Donc, on a plusieurs épisodes, on a tous les deux super hâte de vous les présenter. Et en attendant, eh bien, je l'ai publié sur ma page Facebook. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu, mais j'écris des articles en collaboration avec, justement, Le Temps d'une bière, avec Pierre. Et on publie des articles ensemble sur le Moyen-Âge et sur la bière. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est des petits articles très courts, ça prend peut-être 2-3 minutes à lire. Donc, si ça vous intéresse, allez voir ça. Bon, maintenant, mes chers amis, que je vous ai fait 5 minutes d'introduction, comme à l'habitude, parce que, évidemment, je suis incapable de me taire, mais ça, mes chers amis, c'est pas grave, j'ai un podcast, c'est à ça que ça sert. Donc, commençons les Vikings. Bon, déjà, avant de se lancer dans tout l'aspect historique, faut comprendre quelque chose. Dans cet épisode, on va énormément démolir à grands coups de marteau des stéréotypes. En fait, vous le savez sûrement déjà, les Vikings sont pris avec ont eu une immense popularité, soit à travers la célèbre figure Thor dans Marvel, ou simplement la série Viking Valhalla. Les Vikings sont partout, ils sont dans nos jeux vidéo, ils sont dans nos films, et j'en suis très heureux, sachez-le. Mais nos chers Vikings sont souvent représentés de façon très barbare, hein, d'étant des grosses brutes sanguinaires, sans culture, sans langue. Le seul moyen de communication qu'ils possèdent, c'est la violence. Un peuple qui vit souvent dans une extrême pauvreté, avec des habits horribles, très pauvres, qui doivent aller piller à l'extérieur de leur terre, tellement les terres scandinaves sont difficiles à vivre, et qui, bon, dans le fond, donne juste l'image d'une grosse brute qui tape. En fait, on va le voir dans cet épisode-là, c'est entièrement faux. En fait, c'est complètement stéréotypé. On va même voir que l'image du guerrier viking dans cet épisode-ci est exagérée, et pas juste exagérée, elle est probablement jusqu'à un certain point, j'ose le dire, faussée. Et là, vous me dites, mais attendez, Gabriel, ils ont fait des raids, ils étaient des guerriers. Oui et non. Et on va voir tout ça ensemble. Mais avant de se lancer dans le sujet, on va partir du premier problème, le mot viking. Combien de fois on a entendu dans la série, par exemple, Viking, « Je suis une viking, je n'ai peur de rien » ou « Je suis un viking, mon peuple, c'est les vikings, nous sommes les vikings ». Non. On va tout de suite mettre ça au clair, pastoureux les pastoureaux, ça c'est non. Les vikings, ce n'est pas un peuple. Il n'y a pas une place qui s'appelle Vikingland, ok? C'est pas une place où tu nais viking, tu grandis viking, t'as ton passeport viking, non. Pas du tout, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est que les vikings ne sont pas un peuple. Ce sont des petits clans qui ne sont pas unis, ce sont des Danes, ce sont des Utes, ce sont des Yules, ce sont un paquet de petits groupes qui s'entretapent sur la marboulette à l'occasion et qui parfois s'unissent pour faire de grandes expéditions. Donc, c'est quoi un viking? Ben en fait, le mot viking vient du norrois vikingir, qui veut dire, en fond, ça se traduit un petit peu boiteusement, mais c'est celui qui part en raid, et moi je vais avoir l'audace de dire celui qui part en expédition. Parce que le viking, ce n'est pas seulement celui qui prend la hache, qui va dans son knorr, et qui décide de traverser l'océan pour aller taper sur des gens. C'est aussi celui qui embarque dans son knorr pour aller coloniser de nouvelles terres. C'est celui qui embarque dans son knorr pour partir en expédition, en exploration, découvrir de nouvelles terres. C'est aussi le marchand qui embarque dans son knorr pour faire des affaires par-delà les océans. Donc, un viking, c'est pas nécessairement un guerrier. C'est pas nécessairement quelqu'un qui part avec des intentions guerrières. Donc, c'est pour ça que déjà là, le terme viking ne fait pas toujours référence aux guerriers. Mais certes, il y avait également des vikings, bien évidemment, qui avaient une vocation beaucoup plus guerrière. Et là, justement, c'est une question extrêmement intéressante qu'on peut se poser. Comment ça se fait que l'image qu'on a des vikings est autant portrayée sur l'aspect guerrier, si pourtant ils étaient surtout des commerçants et des explorateurs? Et là, on arrive à un des points, en fait, peut-être le point le plus important de cet épisode-ci, c'est comment est-ce qu'on sait ce que les Vikings ont fait? Quelles sont les sources qui nous démontrent leur comportement, leur profession, leurs actions et leur culture? Et c'est là que c'est extrêmement important à comprendre, c'est que la majorité de ce qu'on a sur les Vikings ne nous viennent pas des Vikings. Ça vient des gens qui se sont fait taper dessus par les Vikings. Les scribes dans les monastères, les villes, donc les rois qui décrivaient les assauts. Donc la majorité du stock écrit qu'on a de ces derniers sont en réalité, en fait, proviennent, pardonnez-moi, de leurs ennemis. Ce qui leur donne une très mauvaise réputation, hein. Pensez-y 30 secondes. Vous, je sais pas moi, vous décidez d'aller vous prendre une poutine dans un restaurant au Québec et vous rentrez là avec une hache, vous criez pour la gloire d'Odin et vous commencez à frapper tout le monde. C'est sûr que la réputation que vous allez laisser risque d'être très sombre et vous allez finir en prison et c'est une bonne chose, laissez-moi vous le dire tout de suite, faites pas ça. Mais là où je veux en venir, c'est qu'évidemment, si la seule source écrite qu'on a des Vikings, c'est lorsqu'ils partaient à la guerre, ben la seule chose qui va transparaître dans notre culture et dans notre histoire sur les Vikings, c'est des guerriers complètement fous qui tuaient tout le monde et qui étaient horribles et qui étaient monstrueux. Et donc, la seule réelle image qu'on a de ces derniers, ça va être cette image-là, cette image de grosse brute. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais attends, Gabriel, les Vikings n'avaient pas une écriture. Et oui, pastorelles et pastoraux, je suis vraiment content, vous vous en souvenez. Effectivement, ils avaient les runes. Et là, je vais en parler un peu rapidement. Et là, je dois me contenir de toutes mes forces parce que les runes est un sujet qui me passionne. Et là, faut pas que je débarque parce que là, l'épisode va faire 4 heures pour vrai. Il existe plusieurs alphabets runiques. Il y a l'ancien futhark qui était utilisé par les tribus proto-germaniques avant les Vikings. Les Vikings, eux, utilisaient un système runique de 16 lettres, de 16 runes, qui, dans le fond, s'appelle le Younger Futhark. Donc, on l'appelle le jeune parce qu'il est plus proche de nous dans l'histoire. Et les runes avaient une vocation à la fois magique et à la fois elles servaient d'écriture. Et la majorité des textes qu'on a, c'est pas vraiment des textes, hein. C'est des pierres runiques. Donc, quelqu'un qui gravait des runes dans la pierre pour parler d'une histoire, mettons, Vidar s'est battu vaillamment ici avec ses guerriers. Donc, c'est surtout des pierres commémoratives, vous comprenez? Parfois, on en a sur des objets, surtout sur les peignes. On va y revenir, les peignes chez les Vikings, mais on a trouvé, par exemple, des peignes au Danemark avec des inscriptions runiques avec le nom d'une personne. Donc, ça c'est mon peigne. Donc, il y a quelques petites inscriptions, mais faut comprendre, en fait, que faites le test. OK, pastourelles et pastoureaux, j'aimerais que vous fassiez le test pour moi. Demain matin, allez faire l'épicerie et gravez-le dans la pierre. Faites pas de phrases, faites juste graver des mots. C'est foutrement plus difficile, hein? Puis c'est lourd, la pierre, tu peux pas transporter ça où tu veux. Donc, faut comprendre que écrire avec des runes dans de la pierre, c'est un ouvrage assez complexe. Et d'ailleurs, la personne qui compose le texte, souvent un scald, n'est pas celui qui le grave. Donc, ça prend deux personnes pour écrire. C'est plus compliqué et c'est pas vraiment pratique. Bien évidemment, ils n'écrivaient pas seulement sur la pierre. Hein. On sait qu'ils gravaient également dans le bois. Le truc, c'est que le bois, à moins que ça soit dans une tourbière, archéologiquement, on le retrouvera pas parce que ça se décompose. On arrive parfois à en trouver, comme le peigne, par hasard, le peigne était en bois, mais il faut que ça soit vraiment dans des situations archéologiques extrêmement spécifiques pour qu'on soit capable de le retrouver aujourd'hui. Maintenant, vous allez me dire, « Oui, mais Gabriel, on a étudié un code de loi scandinave. » Un code de loi avec le grand Gauss, hein, sur l'épisode sur l'homosexualité et la place de la femme dans le monde viking. On a regardé ça ensemble, c'est un texte. Et là, vous vous en souvenez sûrement, pastourelles et pastoureaux, c'est pas un texte viking, c'est un texte qui a été composé après les vikings. Donc, les sources textuelles scandinaves, entre autres la plus populaire, les sagas, eh bien, ça nous parvient, de la main des scribes des scandinaves, mais après l'époque viking et non pendant la période. Les Scandinaves, en fait les Vikings, avaient une longue tradition orale. Et c'est extrêmement important, et ça on va y revenir quand on va aborder plus en profondeur les Skalds. Mais il y a tout un aspect religieux avec le poème et d'être capable de préserver l'histoire à travers la poésie. Donc c'est très 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 oral. Et c'est justement, dans le cas par exemple de l'Edda de Snorri, hein, Snorri Sturluson qui a écrit l'Edda, il a mis sur papier c'est le jargon habituel, mais sur parchemin, ces sagas qui étaient en train de se perdre dans les traditions orales. Donc, ils ont mis sur parchemin. Donc, qu'est-ce qu'on a des Vikings qui nous provient des Vikings, hein? Eh bien, pas grand-chose au niveau textuel, mais on en a énormément au niveau archéologique. Et là, comme on dit en bon québécois, je vais prêcher pour ma paroisse. Mais l'archéologie, je veux juste le rappeler, parce que ça fait pas l'unanimité dans le monde historique, L'archéologie n'est pas une science connexe à l'histoire. L'archéologie est dans l'histoire. L'histoire a besoin de l'archéologie. Si vous voulez savoir de quoi je parle, je vous invite à l'épisode 2, je crois, du podcast. Bon, je repartirai pas là-dessus, mais l'archéologie est considérée comme pas une vraie science historique. Cependant, surtout dans le cas des Vikings, c'est les archéologues, plus souvent qu'autrement, qui nous prouvent ou qui infirment nos théories. Parce que c'est la seule réelle source qu'on a des Vikings de leur époque. Donc aujourd'hui, on va étudier ensemble des sources qui viennent des chrétiens, donc des gens qui sont souvent tapés par les Vikings, de l'archéologie des Vikings indirectement, et des sources qui nous parviennent des sagas, donc qui ont été écrites dans le monde scandinave du Moyen-Âge après l'époque viking. Donc, maintenant que je vous ai un peu garnoté tout ça le plus fort que j'étais capable, d'ailleurs je vais le traduire, garnoté pour nos amis français et suisses, c'est une expression québécoise qui veut dire lancer avec énormément de force et très peu de précision. Mais maintenant que je vous ai garnoté plein d'informations, et que là on est dans le bain, que maintenant vous comprenez, ok, on n'a pas beaucoup de sources sur les Vikings qui nous parviennent d'eux autres que l'archéologie, quelques pierres uniques, et les textes scandinaves qui nous viennent après, sinon on a simplement des textes qui nous parviennent des ennemis, des gens auxquels les Vikings ont causé du tort, donc ça va être clairement biaisé, hein. Mais même si on l'a abordé ensemble, en grande quantité, que les Vikings n'étaient pas ces si grands guerriers, eh bien, Pourquoi? Parce qu'après tout, moi, je viens juste de le mentionner, une grande partie des sources écrites qu'on a vient des gens qui se sont fait taper. Hein? Ça fait partie des gens qui se sont fait donner une raclée par les Vikings. Donc, forcément, quelque part, même si c'est pas dans l'entièreté, ils devaient être des guerriers braves et courageux. Bien, pastourelles et pastoureaux, je vous ai préparé une petite mise en scène pour vous faire un magnifique portrait de la situation.
Vicar, mon brave, te voilà enfin, tu es revenu de ton raid, le Nord est rempli de trésors. Ha! Ma foi, tu as dû livrer des combats qui feront écho au Valhall pendant l'éternité jusqu'au Ragnarok.
Oui, Jarl Sven, il me fait plaisir de revenir avec toutes ces richesses, mais ne me couvrez pas trop de gloire, je vous prie, car cette guerre que vous décrivez était loin d'être ce que vous vous imaginez.
Mais qu'est-ce que tu racontes, Vicar? Avec un tel trésor, nul doute que ce combat fut sanglant et glorieux. C'est absolument hallucinant, tout l'or, l'argent, les pierres précieuses. Un tel trésor ne peut qu'être bien gardé.
En fait, Jarl Sven, non, en fait, non, pas du tout. C'était pas du tout, en fait, non, c'était pas gardé du tout. On est arrivé, puis... On a aperçu une structure et on s'est dit, ah ben, on va arrêter ici. Donc, on a amarré le Knorr et on est débarqué. Et donc, on s'est dirigé vers cette bâtisse. À notre grande surprise, il n'y avait pas de garde, il n'y avait pas de fortification. Donc, il y avait une porte. Donc, on a ouvert la porte. Et là, on est rentré et il y avait tous ces drôles de bonhommes qu'on vous a ramenés ici, là, en arrière, enchaînés, justement. Et ouais, c'est ça.
Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Et qui sont ces individus?
En fait, Jarl, Sven, ça c'est. Ils disent qu'ils sont des moines, et dans le fond, c'était un lieu de culte. Ils priaient un certain Jésus lorsque nous sommes arrivés.
Ah! Mais voilà, Vicar, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Tu as pillé un des temples de leur dieu terrible! Ah! Tu es vraiment sans peur, je n'aurais jamais osé déranger leurs yeux. Est-ce que nous avons d'ailleurs à le craindre? Je ne voudrais pas attiser la colère de dieu inconnu. Qui est-il?
En fait, Jarlsven, leur dieu est pas très problématique. En fait, c'est un dieu de la paix et d'amour qui déteste la guerre et qui ne la fait pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'ont pas résisté, c'est qu'ils n'ont pas le droit de se battre.
Quoi? Ils sont au milieu de nulle part, avec un tel trésor, personne n'a le droit de porter d'armes et personne n'a le droit de se battre. Mais qu'est-ce que c'est ridicule, leur dieu doit être au moins minimum terrible, hein? Je veux dire, certes, par exemple, frère est un dieu de paix, est un dieu qui préfère l'amour à la guerre, mais c'est quand même un dieu redoutable qu'il ne faut pas frustrer. Es-tu réellement sûr que nous avons pas attisé la colère de ce fameux Jésus?
En fait, non, aucun risque, il est mort.
T'es en train de m'expliquer que ces moines vénèrent un dieu qui est mort?
En fait, oui, Jarlsven, en fait, il a été crucifié par les Romains. Donc, oui, leur dieu tout-puissant et miséricorde a été tué par la main des mortels. On n'a pas bien compris non plus.
T'es en train de me dire.
Oui, en passant, je suis désolé, mais le Jarl Sven, quand il se fâche, il prend un accent québécois, fait que je m'excuse.
Tu es en train de me dire que je t'ai envoyé de l'autre côté de la mer pour y livrer des batailles sanglantes et y surmonter des périples incroyables pour que tu graves ton nom dans l'ensemble du Valhall et que ta légende en fasse écho jusqu'au Ragnarok pour te ramasser sur une plage avec une structure non défendue juste à côté, que t'es débarqué avec tes soldats, vous vous êtes rendu devant la bâtisse où il y avait absolument personne qui la gardait, vous avez simplement passé par la porte pour y trouver à l'intérieur ces moines qui n'ont pas le droit de porter d'armes, qui n'ont pas le droit de se battre, qui ont simplement commencé à s'enfuir et à se mettre à genoux en priant un dieu qui leur interdit formellement de se défendre et qui déteste la guerre et qui est mort tué par les Romains, ce qui t'a permis à toi et tes hommes de simplement prendre le butin, prendre des esclaves, sans même dégainer vos haches, les ramener dans le nord, puis revenir ici sans avoir eu à te battre.
Oui, oui, Jarl Sven, c'est en plein ça. Vous avez tout compris, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. On a même pas eu besoin de se battre, on est rentré, on a pris le stock et on est parti.
Dis-moi, Vicar, des structures non défendues, pleines d'or comme ça, y en a d'autres?
Oui, Jarl Sven, tout le côté de la côte, là, y en a plein.
Dis à ma femme d'amener ma hache.
Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite mise en scène, mais ici, bien évidemment, c'est de l'humour, mais ce que je veux vous mettre en lumière, c'est que c'est vraiment pas des grands guerriers, les Vikings. La majorité de leurs cibles étaient des gens qui avaient même pas le droit de se défendre, qui avaient même pas le droit de porter d'armes, et qui étaient complètement isolés. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler ici de preux guerriers? On voit beaucoup plus ici un opportunisme, hein? La dernière question que j'ai posée au dernier épisode, est-ce que les Vikings sont finalement pas de puissants guerriers ou surtout de brillants opportunistes? Eh bien, on va s'en rendre compte dans cet épisode-ci, mais les Vikings tombent beaucoup plus dans la catégorie des opportunistes. En fait, les Vikings, souvent, dès qu'ils rencontraient la résistance, eh bien, ils foutaient le camp. Mais avant qu'on embarque tout de suite dans ce sujet-là, j'aimerais qu'on commence avec, en fait, la base. Et là, vous allez me dire, Gabriel, ça fait 20 minutes que tu parles, est-ce qu'on a commencé? Oui, il fallait détruire les stéréotypes, il fallait comprendre que les Vikings n'étaient pas que des guerriers, et surtout, il fallait comprendre les limites des sources qu'on possède sur les Vikings. Mais maintenant, c'est le temps de parler officiellement de l'époque viking. Dans l'épisode sur les Carolingiens, on mentionnait à la fin du 8e siècle, il y a eu le raid de Lindisfarne en 793. Maintenant, pourquoi cette date-là? Est-ce que l'époque viking commence réellement là? Je vous le dis tout de suite. Non. C'est pas en 793 que les Vikings ont réalisé qu'il y avait des bateaux chez eux et qu'ils pouvaient les utiliser pour aller ailleurs et ensuite procéder à des pillages. Ça fait des siècles et des siècles que les Vikings, en fait, là, on s'entend les Scandinaves, là, mais les gens qui partent faire des raids, qui partent en expédition, qui partent Vikings, ben, ça fait des années, puis des années, puis des années qu'ils font ça. Ils sont très au courant de comment faire et ça commence pas en 793. Mais l'attaque à Lindisfarne va être un peu comme un élément marqueur en histoire qu'on va utiliser qui parle du début de l'âge viking. Maintenant, ça se termine en 1066. Encore une fois, les dates, on en a déjà parlé ensemble, c'est jamais fixe, hein, c'est pas en 1066. Oh, c'est fini, bye, on s'en va, on disparaît. Il y en a un peu après, il y en a un peu avant. En fait, il y en a eu beaucoup avant parce que ça existait bien avant, comme je viens de le dire. Les Vikings n'ont pas appris du jour au lendemain à servir de bateau puis à faire la piraterie. Mais il est vrai qu'après 793, en fait, il y a une grande prolifération des raids. En fait, les raids s'intensifient et les Vikings vont de plus en plus loin, de plus en plus nombreux et de plus en plus fréquemment. Pourquoi? Eh bien, là-dessus, il y a 45 000 raisons et Régis Boyer, je vais surtout me baser sur les siennes, étant le plus grand expert en Norrois, parce que elle touche non seulement ce que j'ai vu à l'université, mais en touche d'autres qui sont encore une fois des stéréotypes. Et le premier, j'aimerais le détruire, c'est l'idée que les Vikings, le monde scandinave, les Danois, les Norvégiens, les Suédois, ils mangent des roches à longueur d'année, les terres sont arides. Ils ne connaissent pas l'agriculture, et même s'ils vivent tous sur le bord de l'eau, ces derniers ne connaissent pas la pêche. La vie en terre scandinave est tout simplement impossible, c'est pour ça qu'ils sont partis. Maintenant, Il faut se poser deux questions avec ce genre de théorie-là. Et Régis Boyer les attaque très bien. Pourquoi il serait resté? Posez-vous la question. Si les terres scandinaves étaient aussi impossibles à vivre, pourquoi il y aurait eu des gens là à la base? Si ça fait des millénaires qu'ils sont là, c'est parce qu'ils doivent être capables de manger un minimum. En fait, c'est pas que les terres sont arides. C'est sûr que, bon, en Norvège, hein, tu feras pas des plants de bananes. On est tous d'accord. Mais c'est pas vrai que les Scandinaves crevaient tous de faim, que les terres, c'était impossible à vivre. C'est sûr que c'est un climat très rude, on va se le dire. Mais reste-t-il que si, comme encore une fois, ça fait plusieurs siècles qu'ils sont là, c'est parce qu'ils sont capables de vivre dans ces terres-là. Donc, ça fait pas vraiment de sens. Là, il y a une autre théorie qui fait un peu plus de sens, mais on parlerait d'un boom démographique. Donc, il y aurait eu beaucoup plus, en fait, de naissances pendant un certain temps et que certaines personnes auraient dû partir, surtout les hommes. Pourquoi les hommes? En fait, c'est que chez les Scandinaves, à l'époque, l'héritage va seulement au fils aîné. Ça veut dire que si vous avez 5 fils, il y a juste un fils qui hérite. Donc, les Scandinaves avaient déjà compris à l'époque ce que les Francs comprennent pas encore, qui est de pas diviser toutes tes possessions en 4 parce que ça finit en guerre fratricide à chaque fois. Donc, ça veut dire que, selon cette théorie, étant donné qu'il y a beaucoup de naissances, ben, il y a certains hommes qui ont pas eu terre parce qu'ils étaient pas les aînés, qui ont dû partir viking, donc partir en raid, pour essayer d'obtenir, justement, des terres où s'établir. Alors, oui, c'est possible que ça soit dû en partie à un boom démographique, mais comme Régis Boyer le mentionne si bien, de tout attribuer à ça, c'est peut-être un peu exagéré, en fait, c'est très peu représentatif. Parce que Snorri, dans ses écrits, mentionne que à l'époque, puis là, je le rappelle, Snorri n'a pas vécu à l'époque viking, hein, c'est un auteur après l'époque viking, va mentionner que dans ces temps-là, en fait, il y avait des querelles incessantes à l'interne, que c'était très instable, et que dans le fond, il fallait constamment prêter allégeance à des jarls, et qu'il y en a certains qui ont été tassés, et qui ont dû justement partir. Et là, ça devient intéressant, parce que là, certes, ça peut être dû à cause de l'instabilité à l'interne que les gens s'en vont, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le système de Jarl marche un peu comme le système du chef germain qu'on avait vu, mettons, avec Clovis. Et là où je vais en mentionner, c'est qu'un bon chef, c'est une personne qui est capable de séparer adéquatement et également le butin à travers ses hommes. Donc, l'idée du butin, on l'avait vu avec le vase de Soissons, hein, cette fameuse histoire qu'on a parlé avec Clovis qui devait séparer son butin, c'est quelque chose qui devient extrêmement, en fait, redondant dans le monde du pouvoir germanique, et ça va survivre au Moyen-Âge. Et pourquoi la séparation du butin est si importante? En fait, c'est justement pour qu'un Jarl continue d'avoir les bonnes faveurs de ses guerriers. Il doit leur offrir des cadeaux pour, dans le fond, alimenter cette espèce de réciprocité, cette amitié guerrière et leur loyauté. Donc, Régis Boyer mentionne, et je trouve ça extrêmement intéressant, c'est que probablement, étant donné que c'était probablement instable, comme le mentionnait Snorri, c'est pas impossible, c'est loin. L'instabilité au Moyen-Âge, c'est pas un mythe, donc on est pas mal tous certains que ça fait, en fait, que c'est très possible, mais que dans une optique de beaucoup de changements de pouvoir, il y a eu sûrement énormément de gens qui ont dû renouer cette espèce d'amitié, peut-être pour pas se faire trahir, peut-être pour ne pas simplement, en fait, se faire tasser trop facilement, ou piller d'autres gens pour être capable de financer leurs guerriers. Donc, peut-être que dans cette espèce de climat instable, et en là, c'est tout le temps des peut-être, il y a des Jarls qui ont décidé de partir en raid à l'extérieur pour aller chercher des richesses, pour justement assurer la loyauté de leurs guerriers. D'ailleurs, ce côté extrêmement négociateur était extrêmement important chez les Vikings. On a souvent encore l'image de la grosse brute qui tape, mais comme je viens de le mentionner, comme chez les Germains, un bon roi viking est en fait un Jarl, et un bon Jarl est celui qui sépare également et de façon juste son butin avec ses guerriers, mais cela doit être un excellent négociateur. Parce que justement, dans un monde où c'était si instable, et là je vais faire attention, là, parce que je veux pas vous mettre dans la tête le stéréotype qu'on entend souvent que les Vikings étaient complètement, constamment en guerre tout le temps, et que c'était genre quasiment des, pour prendre le terme, no man's land, où tout le monde se battait tout le temps. Non, il y avait des instants de paix. C'est un peu dans le même, c'était le même genre de relation qu'on avait au Moyen-Âge, qu'on avait à l'Antiquité, avec, mettons, les tribus celtiques, les tribus germaniques, plein de petites tribus qui, à l'occasion, se tapent dessus. Et bon, ben, dans le monde viking, un bon Jarl devait être un bon négociateur pour tisser la paix entre ses voisins pour que, justement, un scénario catastrophe où c'est constamment la guerre ne se produise pas. Donc, La négociation, c'est extrêmement importante. Et gardez ça en tête parce qu'on va y revenir, sa négociation. Et maintenant qu'on a établi que, bon, les Jarls, hein, c'était peut-être pour un niveau, au niveau monétaire, pour renouer à un sentiment de loyauté avec ses guerriers. Mais vous vous rendez compte, depuis qu'on en parle, j'arrête pas de dire mais peut-être. Et là, ça doit devenir un peu confus, dire ok, mais c'est quoi? En fait, pastourer les pastoraux, c'est un peu tout. C'est peut-être le boom démographique, c'est que peut-être même alimenter l'instabilité au fil du temps avec justement le fait que les jeunes, en fait, les plus jeunes ne pouvaient pas hériter des terres. Ça a peut-être commencé avant, ce n'est pas très clair là-dessus. Donc, est-ce que le boom est complètement faux? Est-ce que c'est en fait juste le fait que c'était instable et les gens ont dû aller chercher de l'or ailleurs? C'est aussi possible. Donc, il faut comprendre que quand on étudie l'histoire, c'est très difficile souvent de mettre une raison précise et dire voilà, hors de tout doute, c'est une variable qui a fait que toute l'histoire s'est écrite. C'est jamais le cas. C'est tout le temps des milliers de variables qui jouent en ça et qui jouent en même temps. Et sachez-le, c'est peut-être toutes ces réponses. Mais, pastourelle et pastoureau, il y a deux raisons. Encore une fois, que Régis Boyer, là, je parle beaucoup de Régis Boyer parce que c'est vraiment un grand expert en la matière. Je le répète, le plus grand expert de Norwa. Mais c'est très bien connu dans le monde des médiévistes et des gens qui s'intéressent à l'époque viking. Il y a une raison absolument indéniable, une raison beaucoup trop évidente. Et j'espère l'avoir un peu mis en scène dans le fond, dans le petit sketch que je vous ai préparé. Mais une des vraies raisons, peut-être même, j'ose le dire, peut-être quasiment la seule réelle raison pourquoi les vikings intensifient leur raid après 793, c'est que c'est absolument... complètement, totalement, ridiculement facile. Il y a absolument aucune résistance en Europe. Les Vikings arrivent, il y a personne pour se défendre, ils prennent l'or et ils s'en vont. C'est ce qu'ils vont faire sans arrêt. Et en fait, c'est ça qui a, en fait, enlevez-vous l'image des Vikings qui arrivent devant la ville fortifiée et qui là doivent se battre de corps et âme pour pouvoir prendre leur butin. Non, pour imaginer les Vikings là, imaginez un Walmart au Black Friday. C'est exactement ça qui se passe. Ils rentrent puis ils ressortent avec le stock puis c'est le chaos total. C'est exactement ça. Donc, faut comprendre que encore une fois, j'ose le dire, la raison pourquoi les Vikings commencent à intensifier leur raid, c'est qu'avec l'exemple de Lindisfarne, je le vois un peu comme ça. Imaginez un facochère mort et quelqu'un prend un bâton puis il pique, puis il regarde. Est-ce que le facochère se défend? Est-ce que le facochère répond? Ah ben non, donc il n'y a pas de danger. C'est exactement ça que les Vikings vont faire avec Lindisfarne. Ils vont se rendre compte que, ah ben voilà, l'Europe est pas... Là, je dis l'Europe parce que en fait, c'est les alentours, là, on s'entend, c'est au sens large, là. Mais les côtes autour de l'Europe ne sont pas bien défendues. En ce moment, l'instabilité à l'interne est trop grande. Et en plus, il y a un mouvement qui est né un peu avant le massacre de 793. C'est une nouvelle mentalité qui s'appelle le monachisme irlandais. Et là, je veux tout de suite mettre un paquet de parenthèses. Le monachisme irlandais est quelque chose d'extrêmement intéressant et complexe. Sachez-le, mes chers pastorels et pastoureaux, mais là, pour le bien de l'épisode, je vais devoir dire deux phrases là-dessus et ça me fend le cœur parce qu'on peut faire un épisode de 3 heures sur le monachisme irlandais extrêmement facilement. Mais juste pour que vous compreniez comment le monachisme irlandais interagit avec l'époque viking, c'est que le monachisme, dans le fond, considère les villes comme étant pécheresses, une source de péché, et les gens, pour s'éloigner du péché et se rapprocher du Christ, s'exilent loin des villes, dans des monastères où ils vont prier. Donc, vous comprenez, là, encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. C'est pas juste ça. C'est une infime partie de ce que c'est. Mais je suis sûr que vous comprenez déjà le dynamisme, entre les deux. Il y a des gens qui s'excluent, qui s'en vont en exil loin des villes, vivent une vie de piété en tant que moine. Et le boom, les Vikings arrivent. Donc, ils sont loin, ils sont isolés, ils n'ont pas le droit de se battre, c'est contre leurs valeurs, c'est contre la religion. Donc, ils ne peuvent rien faire et ils sont à la merci des Vikings qui, eux, arrivent par les voies de la mer fluviale aussi également. Leurs knarrs peuvent passer justement dans les fleuves. Donc, malheureusement pour les moines, un mauvais timing. Mais sachez-le, on va le voir ensemble, les Vikings ne vont pas juste s'en prendre au monastère, ils vont s'en prendre à des villes également. Parce que le Moyen-Âge est marqué par l'instabilité. Là, je sais qu'on a énormément vu le point de vue franc, en fait, exclusivement. On n'a pas vu l'Angleterre, etc., le Saint-Empire. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que, règle générale, au Moyen-Âge, c'est pas mal un peu la même chose partout. Pour donner l'exemple, l'Angleterre, à l'époque viking, ben c'est des royaumes divisés avec des petits roitelets qui se tapent sur la marboulette. Là, dans le royaume des Francs, on l'a vu à la fin, Charlemagne a essayé la Renovatio Imperii, mais malheureusement, il va arriver la pire chose qui peut arriver à un roi franc, c'est avoir plus qu'un fils, et avec le traité de Verdun, va rediviser son empire en trois, donc il, encore une fois, va avoir des querelles intestines, donc ça va faciliter le travail des Vikings, parce que les Francs vont être divisés, ils vont s'entretaper dessus, et ça va créer, encore une fois, en fait, le champ libre, en fait. Ça va ouvrir les portes aux Vikings qui profitent des querelles intestines que toute l'Europe du Moyen-Âge connaît pour effectuer des raids rapides, éclairs et efficaces. Maintenant, on a vu ensemble que la réalité des Vikings, hein, des grands guerriers braves, c'est complètement ridicule. En fait, premièrement, les moines ne peuvent pas se défendre, et même s'ils n'attaquent pas que les monastères, l'instabilité que le Moyen-Âge connaît à cette époque-là, dans une grande généralité, ben ça facilite le travail des Vikings, parce que justement, si tout le monde est occupé à se taper dessus et personne n'est uni, ben il n'y a pas de front commun pour résister aux invasions. Donc ça facilite le travail des Vikings. Donc, ultimement, encore une fois, j'ose le redire, mais la raison la plus présente pourquoi les Vikings ont commencé à faire ça en plus grande fréquence, c'est que c'est extrêmement facile, c'est que c'est donné, là, c'est littéralement ridicule. Mais il y a un autre aspect que simplement l'instabilité interne, là on a parlé un peu du monachisme irlandais, mais aussi également le fait que les monastères n'étaient pas défendus, etc. La technologie des Vikings au niveau de la navigation. Et là, on l'a vu ensemble pour ceux qui ont vu l'épisode sur la navigation au Moyen-Âge, mais les eaux sont très abandonnées au début du Moyen-Âge. Parce que justement, encore une fois, l'instabilité interne sur les terres fait qu'il y a un désintérêt pour le contrôle de la piraterie sur les mers. Et les Vikings arrivent par la mer. Donc, vous le comprenez déjà tout de suite, il n'y a pas de résistance sur les eaux non plus. Parce que justement, encore une fois, le Moyen-Âge est aux prises avec l'instabilité à l'interne et les gens, pour la première partie du Moyen-Âge, vont quasiment avoir un désintérêt presque total sur le contrôle des mers. En fait, le réel contrôle des mers va se voir à travers peut-être Justinien, comme on a vu, qui était à l'Empire byzantin, dans son désir de reconquérir la Mare Nostrum, notre mer. Et hormis ça, eh bien, il n'y a pas réelle résistance, hein. Il n'y a pas vraiment grand monde sur les eaux. On l'a vu, les bateaux qu'on va hériter de l'Empire romain, bon, c'est des bateaux avec des rames qui sont très lents. Alors que le bateau viking, au niveau technologique, est foutrement plus avancé, va beaucoup plus vite. D'ailleurs, encore une fois, je sais que dans l'épisode sur la navigation, on mentionnait que les knarrs pouvaient aller jusqu'à 20 nœuds. Et la personne qui le mentionnait, c'est un ancien marin et également quelqu'un qui a fait un doctorat en études médiévales. Juste vous informer, puis là, c'est juste moi qui veux être perfectionniste là-dessus. Mais Régis Boyer, lui, disait entre 10 et 15. Donc, entre 10 et 20, peut-être, là, mais tout ce que vous devez savoir, c'est pas tellement important si c'est soit 10 ou c'est soit 20. Les bateaux arabes allaient à maximum 3 nœuds. Donc, dans tous les cas, les navires scandinaves sont plus efficaces, sont plus rapides et peuvent aller en haute mer. En haute mer, eux, ils n'ont aucun problème, alors qu'une galère, c'est impossible. D'ailleurs, les knarrs vikings ne vont pas simplement en mer. Ils peuvent aller aussi dans les fleuves. En fait, le tirant d'eau d'un knarr, c'est un peu moins d'un mètre. Juste vous mettre ça en perspective, là, aller dans un petit cours d'eau, un petit ruisseau, une rivière peut-être plus, un fleuve, mais là, pas au Québec, là, parce que nos fleuves, nous autres, sont assez profonds, là, mais dans le fond, l'objectif, c'est d'avancer dans l'eau. Faites-le. Vous allez en vacances, c'est l'été. Faites-le. Allez dans l'eau. Arrangez-vous pour avoir l'eau à peu près jusqu'aux hanches, hein, ça va faire environ un mètre à peu près. Et bien voilà, vous pouvez vous dire, ah, un knarr peut passer dans cette eau-là sans problème, sans toucher le fond. C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Il n'y a aucun mot pour décrire. Les Vikings peuvent aller dans n'importe quelle eau avec ces bateaux-là. Ils peuvent aller autant en océan, en mer qu'en fleuve. Et encore une fois, ben, une dromone, une galère, ben, ça passe pas, là. Fait qu'ils peuvent pas avoir de bateaux pour les contester. Les seuls bateaux qui sont capables d'aller sur les fleuves, qui donnent souvent aux villes, d'ailleurs, hein, juste dire La Seine puis Paris, là. Il y a juste
des bateaux vikings qui peuvent traverser ces eaux-là. Sinon, les frères doivent utiliser des canots avec des rames. C'est pas du tout le même genre d'équipement, là. Donc, encore une fois, l'avantage technologique que les vikings possèdent et le désintérêt presque quasi total de l'Europe médiévale à cette époque, on s'entend à cette époque, rend le travail des vikings encore plus facile. Donc, on se rend compte, plus on avance tranquillement sur cette espèce de phénomène-là viking, que l'image du grand guerrier valeureux et des grandes batailles et du grand courage, finalement, c'est surtout quelqu'un qui prend avantage de la situation. Et là, on arrive à la seconde la plus importante de cet épisode-là. Je pense que ça fait 3 fois que je dis ça, mais jamais 203, donc malheureusement, ça va être ça. Un viking, pour bien le définir là, ensemble, c'est quelqu'un, un individu, qui sait très bien en qui il peut planter sa hache et à qui il doit la vendre. Un viking, ce n'est pas un grand guerrier. Un viking, c'est un monstrueux opportuniste. Parce que les vikings, je l'ai mentionné un peu avant, la seconde qu'ils rencontrent la résistance, ils s'en vont. Pourquoi? Pourquoi se forcer? Je vous pose la question, pastourelles et pastoureaux. Pourquoi les vikings iraient en grand combat, faire de grandes batailles, quand tu peux juste prendre le fleuve à droite et t'as 2 monastères pas protégés, remplis d'or, t'auras même pas besoin de t'abattre? C'est ridiculement facile. Faire un autre exemple. Vous avez un cours à suivre à l'université. C'est le même cours, mais donné par 2 profs différents. Le premier prof, c'est un sadique. OK, il est extrêmement sévère, il a l'air bête toute l'année, il donne des mauvaises notes à tout le monde, il a l'air écœuré d'être là, il a juste hâte d'arriver à la retraite. Et vous pouvez suivre le même cours avec un individu qui est très joyeux, qui aime sa matière, qui est tout heureux, qui vous donne 2 pages de notes que vous pouvez prendre à l'examen pour vous dire, en fait, comme aide-mémoire. Vous prenez qui? Ben, vous êtes pas con, hein? Vous allez prendre le prof plus agréable qui a l'air d'aimer sa matière et qui donne en plus 2 feuilles de notes aide-mémoire à l'examen final. Mais c'est exactement ça que les vikings vont faire. C'est exactement le même principe. Ils vont prendre la solution la plus évidente. C'est facile. Pourquoi se fendre les fesses en deux? Et se livrer dans des batailles extrêmement complexes qui vont être extrêmement coûteuses. D'ailleurs, je l'ai même pas mentionné, je vais le mentionner maintenant, mais les fameux Knorr, hein. On leur a dit, c'est un avantage, c'est un avantage incroyable, hein. Parce que justement, ils sont capables d'aller partout. Mais ces bateaux-là ne transportent pas beaucoup de personnes. En moyenne, les vikings, on peut rentrer 50, 70 individus dépendamment du modèle de Knorr ou de Langship qu'on a. Donc, vous en prenez 5 bateaux qui vont faire un raid, mettons qu'ils sont 50, ben 5 x 50, ça fait 250 vikings. Donc, c'est pas une grosse armée du tout, là. On peut pas se permettre de faire des confrontations frontales, et les vikings le savent. Donc, ils prennent la solution évidente, qui sont des guerres éclairs, où ils ne rencontrent aucune résistance, et s'ils en rencontrent, ben ils vont ailleurs. De toute façon, qui va les arrêter sur les fleuves? Leurs bateaux? Ils en ont pas. Donc, les vikings vont juste continuer de voguer jusqu'au prochain monastère et prendre leur butin là. Mais là, pastourelles et pastoureaux, vous allez me dire, attends, Gabriel, là. Respire par le nez, là. Prends-nous pas pour des idiots. Tu nous as fait un épisode sur les épées Ulfbert, ces espèces d'épées légendaires qui étaient d'une avance technologique absolument phénoménale, hein, quasiment 1000 ans sur les épées au Moyen-Âge à la même époque. Même si t'as clairement dit que c'était pas tout le monde qui avait des Ulfbert, tu vas pas nous faire à croire qu'au niveau guerrier, il y avait pas de prouesse pareille. Vous avez entièrement raison. Les vikings avaient quand même un équipement assez impressionnant à l'époque, mais comme vous vous en souvenez très bien, cela concerne simplement une petite partie de la population guerrière scandinave qui pouvait se permettre d'un équipement aussi incroyable, et surtout les Ulfbert. Donc, c'était loin d'être la majorité des vikings qui étaient très très bien équipés, comme on peut le voir par exemple chez un jarl et sa garde rapprochée. Par contre, en fait, pour rajouter à ceci, vous savez, là, j'ai un peu expliqué le phénomène viking, comment ça a commencé, d'où ça vient, pourquoi les vikings font des raids, dans le fond, pourquoi ça prolifère davantage durant ces siècles-là. Mais vous devez comprendre que les vikings, c'est pas une unité de combat en tant que telle, hein. On l'a déjà mentionné, c'est pas que des guerriers, c'est des commerçants, c'est des explorateurs. Donc, sur le Knorr, il y a Parfois le jarl, ainsi que sa garde rapprochée, hein, les nobles. Mais les gens qui rament, c'est souvent des gens qui se portent volontaires. Donc, les paysans. Qui, en fait, c'était une des façons de devenir viking, c'était de partir devenir un viking, de partir vikingir, de partir en expédition. Donc, on s'enrôlait, dans le fond, pas au sens qu'on le conçoit maintenant, là, mais on s'engageait, on allait sur un knorr et on était rameur, et on amenait le noble où il désirait aller, ou les guerriers, je veux dire armés, mais on parle de quelques guerriers très bien équipés, et durant les raids, eh bien, le rameur avait la chance de se démarquer au combat, avait la chance de faire des prouesses, de se faire remarquer, mais aussi d'avoir sa part de butin. Elles avaient eux aussi leur part du butin, alors c'est une façon très risquée de faire de l'argent, mais, comme vous le savez, étant donné qu'il n'y avait pas de réelle résistance en Europe, et c'est un moyen relativement efficace. Donc, où je veux en venir avec ça, c'est que beaucoup de personnes chez les Vikings qui sont pas de profession guerrière. En fait, il y a même certaines sources, des sources françaises, qui nous pointent qu'ils regardent arriver les Vikings à leur muraille et ils se rendent compte que la majorité d'entre eux sont pas du tout équipés pour se battre. Certains chroniqueurs mentionnent que les Vikings ont même pas d'armure dans la majorité des cas. Puis là, quand j'ai armure, là, et bien évidemment, les armures, ça coûte cher, c'est normal que c'est pas tout le monde qui en ait, mais rien, là. C'est des personnes avec des tuniques qui ont même pas de casque, là. Ils foncent avec une hache de bûcheron dans les mains. Ils ont même pas une hache de guerre, ils ont même pas de masse. Certains rameurs sont tellement pauvres et ont tellement pas d'armes qu'ils partent avec les rames. Donc imaginez, vous regardez du haut de vos murailles les dangereux vikings qui arrivent et il y en a une couple qui se ramasse sur le champ de bataille avec des rames et qui vous charge. Et d'ailleurs, ça va énormément alimenter l'espèce de stéréotype des vikings cinglés, complètement fous de la guerre, parce que personne veut se battre avec une rame. Personne n'a envie d'aller à la guerre avec des rames. Tu sais, quand tu vas à la guerre, tu y vas équipé, hein, tu y vas avec des armes. Mais les vikings sont même pas équipés. Ils sont souvent inférieurs en nombre. Donc ça va tout alimenter l'espèce d'image qu'on va avoir de... mon Dieu, je recommence cette phrase-là. Cela va alimenter cette espèce d'image que nous avons des vikings. Bon, c'était facile. Donc je m'excuse. Mais pour vous donner un autre exemple, et là ça me frustre énormément, je sais que c'est soit Régis Boyer, soit Enderwin Wrote, mais je suis pas capable de retrouver la source exacte. Et je vais faire quelques recherches parce que j'ai fait un travail sur le Dan Law à l'université et j'avais la source, mais là bon pour l'instant elle m'échappe, là, mais du moins je peux vous le dire avec une confidence que en fait c'est soit fait par Régis Boyer ou Enderwin Wrote. Dans tous les autres cas, c'est un autre historien, je l'ai vu, il mentionnait justement qu'un chroniqueur de l'époque expliquait que certains vikings sortaient des boisés sans armes et montraient leurs fesses. Et je m'en souviens très bien parce qu'évidemment, ça te marque ce genre d'information-là, mais ils montraient leurs fesses. Et en réponse, les francs leur lançaient leurs javelots. Alors les vikings se sauvaient dans les bois. Et une fois que les javelots étaient lancés, ils revenaient à la course, ils prenaient les javelots qu'on leur avait lancés, ils les relançaient sur les francs. Donc, il y a certains vikings qui sont tellement pas équipés qu'ils sont obligés de feindre avec des insultes, des injures ou des comportements odieux, de se faire lancer des objets pour être capables d'avoir quelque chose à leur lancer. Et ça vous démontre à quel point les vikings, cette espèce d'image d'immenses guerriers avec tout un arsenal qui débarque en grand nombre, est loin de ça, là. D'ailleurs, Régis Boyer, le martel La Furor Normannorum, hein, la fureur des hommes du Nord, hein, Orum, Norman Orum, c'est notre terminaison au pluriel. Donc, on sait que plus qu'un homme du Nord, donc c'est la fureur des hommes du Nord. On se souvient de ces petits cours de latin. Eh bien, ça n'existe pas. En fait, oui, on va encore le voir. Les vikings vont faire des guerres. Mais dans un premier temps, la première étape des raids, c'est surtout du tâtonnement puis du pillage sans confrontation. Parce que justement, encore une fois, les vikings peuvent embarquer entre 50 et 70 individus dans un knorr. Donc, encore une fois, tu peux pas nécessairement lancer de grands assauts avec si peu de personnes. Ça, vous le savez déjà, on a déjà parlé. Maintenant, ça donne une drôle d'image, hein, sur les vikings, ces espèces d'interactions avec très peu d'armes. En fait, il y a rien de surprenant là-dedans, parce qu'encore une fois, c'est les nobles qui avaient les moyens de se payer l'armement. En fait, c'est assez drôle, mais la majorité des armes que les vikings vont utiliser au cours des raids, parce que là, on va voir qu'il y a une progression dans les raids, c'est des armes franques. En fait, ils vont attaquer les francs, piller les francs, voler leurs armes et les utiliser contre eux-mêmes. Parce que justement, la majorité des vikings ne sont pas adéquatement équipés pour se battre. Mais, je veux quand même le mentionner, les vikings étaient d'excellents artisans, d'excellents forgerons,
Et c'était pas là le problème, c'était pas la capacité de le faire. Encore une fois, la Ulfberht est une preuve indéniable que les Vikings étaient des grands maîtres de la forge et qui étaient absolument phénoménales. Mais surtout, de rappeler que c'est encore une fois simplement les nobles qui peuvent se permettre un tel équipement. Donc, les Vikings, à travers leur raid, vont commencer à prendre des équipements pour devenir, pour étoffer leurs armées. Pas pour devenir, pardonnez-moi, c'est pas le terme que je voulais, pour étoffer leurs armées. D'ailleurs, parfois on mentionne que certains Vikings auraient eu des équipements qui sembleraient pas très bien ajustés à leur taille, parce que justement, c'était probablement un paysan qui s'était enrôlé comme rameur et bon, qui avait ramassé des pièces d'armure qui y faisaient à peu près. Mais bon, une fois que ça s'est atteint, c'est plus un problème, parce que tu peux toujours revendre les pièces pour le faire, qui vaut extrêmement cher, et tout simplement t'acheter un équipement plus adéquat pour ta taille. Mais ça vous donne un peu une idée du dynamisme, et que les raids ne sont pas ce qu'on imagine qu'ils étaient, hein, ces grandes batailles. Je le répète encore, on va les voir, il y en a eu. Mais règle générale, quand les Vikings peuvent éviter la confrontation, ils font. Et d'ailleurs, les Vikings, maintenant vous le savez, c'est des opportunistes. Donc, certains Vikings vont profiter de la situation encore plus, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils terrorisent les populations. Ils se disent, on n'a pas le nombre pour les affronter, mais si on peut continuer de leur faire peur, on va peut-être pouvoir exiger des tributs. Et là, vous m'avez compris, les Vikings vont commencer, au lieu littéralement de débarquer puis de se battre, ce qu'ils vont faire, c'est tout simplement débarquer, exiger un tribut, un paiement en or ou en argent, sans quoi on tue tout le monde. Évidemment, les populations sont terrifiées, donc on fait les paiements, on les craint tellement, et les Vikings s'en vont. D'ailleurs, pastourelles et pastoureaux, je vous propose une citation de l'époque. Je vous prends une citation des chroniques des annales de Saint-Bertin, qui, justement, raconte l'histoire des Vikings qui débarquent en 852 et l'interaction qui s'est produite. Donc, ouverture des guillemets, « Voilà que debout sur la rive, appela péremptoire, l'envoyé des Vikings lança son message à Birnoth. » Donc, il parle à Birnoth. « Je viens de la part des hardis gens de la mer. Ils m'ont chargé de te dire qu'il te faut vite leur envoyer trésors qui te protégeront. Car mieux pour vous éviter le heurt des lances en payant tribut que nous forcer à livrer bataille implacable. Point n'est besoin de massacre si vous êtes assez fortunés. » Donc, pastourelles et pastoureaux, avec cette citation, on voit en fait très clairement que les Vikings évitent, en fait veulent éviter une confrontation directe, ils utilisent la menace et exigent un tribut en disant littéralement « si vous avez de l'argent, il n'y a pas besoin qu'on se batte ». Donc, et là d'ailleurs je ne l'ai pas mentionné, mais là ça se passe en Frise en 852, excusez-moi j'avais pas donné lieu, je m'en excuse, et on rapporte qu'il y avait 252 navires. Là je vais juste mettre des parenthèses, c'est possible. Mais 252 navires, c'est beaucoup. Et voyons donc, c'est parce que il y a personne qui a pris le temps réellement d'y compter. Vous comprenez ce que je veux dire? Lorsqu'on a des nombres dans les armées, dans les navires, quand on dit qu'il y a 100 000 soldats, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui les a comptés. C'est des approximations et souvent c'est très exagéré parce qu'on veut justement pas trop paraître pour des pleutres. C'est possible, je lève la main, c'est possible qu'il y en avait réellement 252. Peut-être qu'on le sait. Mais juste garder en tête que le nombre de navires, le nombre d'unités, ils attendent pas en ligne qu'on les compte avant de se taper dessus, là. Donc, c'est tout le temps relatif. Mais reste que, néanmoins, qu'ils étaient nombreux ou non, les Vikings ont préféré éviter la guerre et simplement dit non, mais si vous avez de l'argent, faites juste nous payer puis c'est correct. Donc, est-ce qu'on peut réellement parler de ces grands guerriers implacable, impossible. Certes, ils ont eu une terrible réputation, mais comme vous le voyez, là, encore une fois, le nom de bateau, on n'est jamais tellement certain de ce genre d'informations, mais ils semblaient être nombreux. Et même étant nombreux, ils ont préféré pas se battre. Ils ont simplement fait, non, mais voilà, hein, donne-nous l'argent, puis on s'en va. Et le paiement en frise sera fait, et ils vont se ramasser à Orléans, et vont faire exactement la même chose. Et à Orléans, ils vont demander un tribut, ils vont le recevoir, et ils vont partir sans causer de dommages. Donc, vous comprenez ce que j'essaie de vous mettre dans la tête, c'est qu'il faut complètement prendre ce qu'on connaît du Viking au vidange et de recommencer à neuf parce que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et là, ça c'est une étape. Mais à un moment donné, il y a certains rois en Europe, que ce soit dans le monde anglo-saxon, que ce soit dans le monde franc, qui vont se rendre compte que la meilleure façon d'arrêter les Vikings, parce qu'ils évitent toutes les confrontations de toute façon, et qu'ils sont indomptables sur les mers parce qu'on a simplement pas la technologie pour les arrêter,
En fait, que la meilleure méthode pour arrêter des vikings, c'est d'autres vikings. Mais c'est, ça a l'air ridicule, dit de même, on trouve ça drôle, mais c'est pourtant si simple. Ils veulent de l'or et de l'argent. Eh bien, il y a des rois qui vont faire très bien, je te paye. Mais t'empêches tes cousins germains, sans jeu de mots facile, de revenir. Et dans certains cas, les vikings vont accepter. Bon, il faut que ça soit rentable, hein, parce que je le rappelle, ils peuvent toujours aller à une place où il n'y a pas de confrontation. Mais par exemple, avec le cas de la Normandie, on va y revenir, mais là, ils ont des terres en plus. Ils ont une place où s'installer et s'établir, et certains vikings, c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent à s'établir ailleurs. Donc, il y en a qui vont accepter tout simplement de défendre finalement les vikings, alors qu'ils sont eux-mêmes des vikings. Et ça peut aller plus loin que ça, là. C'est simplement, je te donne 2000 pièces d'or en plus, et tout ce que j'exige en échange, c'est que toi, ben, t'aies tapé sur mon voisin. Donc, des chrétiens qui utilisent des vikings pour taper sur d'autres chrétiens, ça se fait aussi. Parce que la seule chose qu'ils veulent, c'est de l'or et de l'argent. Pourquoi s'ostiner à leur courir après? On les rattrape pas. On va leur donner ce qu'ils veulent, mais on va l'utiliser en notre faveur. Donc, on va se servir des vikings pour se débarrasser de nos ennemis. Tu veux des terres? Prends-lui. Prends son terrain à lui. Je l'aime vraiment pas. Je te paye. Vas-y. Là, les vikings, bien évidemment, ils se le font donner gratuitement. Puis en plus, quand ils payent une autre terre, ils peuvent prendre les ressources de cette terre-là. Donc, là, ce que j'essaie de vous montrer encore une fois, c'est que le cycle économique chez les vikings va vraiment vite. Parce qu'ils partent mal équipés au début, et à chaque expédition, ils ramènent un butin qui est soit facile, soit donné. Eh bien, ils sont toujours mieux équipés. Et là, le mot se passe. Évidemment que ça va super bien. Fait qu'il y a de plus en plus de vikings. Et là, il y a de plus en plus de vikings. Fait qu'ils font de plus en plus peur. Fait que les gens payent de plus en plus cher pour qu'ils saquent leur camp. Ou leur donnent des terres. Ou leur donnent un dépaiement pour qu'ils tapent sur des voisins. Fait qu'ils reviennent encore avec plein d'argent. Fait que là, ils se rachètent de meilleurs équipements. Ils s'organisent. Ils viennent encore plus nombreux. Ils sont encore plus terrifiants. Vous comprenez? C'est un effet boule de neige, le phénomène viking. Ça va de pire en pire. Pour les Européens du Moyen-Âge, c'est tout le temps plus difficile. Et les vikings, eux autres, ben, ils sont morts de rire. Parce que y a pas de réelle résistance. Eux autres profitent, hein. Ils sont opportunistes. Ils profitent de la situation et s'en mettent plein les poches. Et ça, pastorelles et pastoraux, c'est simplement le début. Vous le comprendrez. Je vais terminer l'épisode maintenant et je vais vous expliquer pourquoi. Pastorelles et pastoraux, on est maintenant à 56 minutes à peu près. J'ai même pas commencé à parler de ce que les Norvégiens vont faire comme expédition, la fondation de l'Islande, le Groenland, le Danemark, on va parler de la Normandie, il y a tellement de choses à dire sur la Normandie, les conquêtes des Suédois en Russie, hein, qui vont être réappelés pour devenir, en fond, les chefs des Slaves, parce que justement, ils étaient de très bons administrateurs. J'ai pas parlé, j'ai pas du tout parlé que les Vikings étaient d'excellents administrateurs, en fait, de féroces négociateurs, mais ça, vous commencez à vous en douter. Il y a tellement de choses à dire sur les Vikings, pastorelles, pastoraux, et je dois m'excuser. J'ai essayé d'être concis, et ça fait une heure et j'ai même pas commencé à parler des faits historiques. Ben là, évidemment, ce que j'ai discuté avec vous, c'est des faits historiques, mais on n'a pas vu les dates, les périodes, et ça, on va le voir dans un prochain épisode. De toute façon, j'avais pas le choix, je devais déconstruire l'époque viking, en fait, le stéréotype qu'on avait de cette époque-là, dans un premier temps, et de toute façon, de le faire en même temps qu'expliquer l'historiographie scandinave, ça aurait été l'enfer. Donc, pastorelles et pastoraux, je vous remercie énormément d'avoir été présents et j'espère que ça vous met un peu soit l'eau à la bouche ou plus à l'oreille de quoi vous attendre avec moi. Parce que là, ça fait une heure et j'ai pas commencé encore. Quand je vous dis qu'on va avoir une saison complète sur les vikings, vous êtes pas prêts. Ma passion va vous dévorer vivant. Je serai sans merci, je vais vider ma passion dans ce microphone et je vais vous empoisonner les oreilles de vikings pendant les siècles à venir. Mais bon, pastorelle, j'espère que vous avez autant de fun que moi. Je m'excuse, je m'en rends compte, c'est peut-être des gros épisodes, mais c'est pour ça que je le coupe maintenant, parce que, je vais être très honnête, là, ça ferait... Je vois pas ça en bas de 3 heures. Donc, on va finir ça là-dessus. Ça, on va laisser ça mijoter une semaine. Et surtout, ben écoutez, hein, comme d'habitude, si vous avez des questions, gênez-vous pas de m'écrire. Allez-y, y a vraiment pas de problème. Je vais clore là-dessus. Pastorelles et pastoraux, un immense merci encore une fois d'avoir été présent, d'être toujours là, le podcast grandit sans cesse, j'ai toujours plus d'écoute, ça fait toujours énormément plaisir d'avoir plus de monde parce que je suis content de voir qu'il y a des gens passionnés qui se rajoutent. Donc, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode sur les vikings. Et là, justement, le prochain épisode va être surtout axé sur
En fait, je vous le dis tout de suite, on va voir qu'est-ce que les Norvégiens ont fait, qu'est-ce que les Danois ont fait, qu'est-ce que les Suédois ont fait, et voir les dates avec les périodes. Et là, ce qu'on va avoir vu dans cet épisode-là va pouvoir s'embriquer dans celui-là, et vous allez être bien préparés pour attaquer cette magnifique période. Donc, pastourelles et pastoureaux, merci encore une dernière fois d'avoir été là, et surtout, je vous dis à la semaine prochaine.
Merci encore de votre écoute cette semaine. Pour faire juste crédit, la musique que vous entendez présentement et au début de l'épisode vient de Julius H. de Pixabay.